Bonjour. Dans l'annonce, Gabriel nous a annoncé que la famille pastorale sont en vacances. Donc, je tiens à vous transmettre leur salutation. Il m'a demandé de ne pas l'oublier. Je ne l'oublie pas, qu'il pense à vous. Donc, il ne sera pas là pendant toute une semaine, y compris dimanche prochain. Mais s'il y a urgence, ne vous inquiétez pas, vous pouvez appeler Jean, vous pouvez appeler Afonso, vous pouvez m'appeler, on est là pour répondre à vos besoins. Jean-Édouard Zin, hein? Afonso d'Oliveira, qui est là. Et on est toujours à votre écoute, quoi qu'il arrive. Alors, aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien reposés. Vous savez, une fois par mois, on a la foi en question, où on rentre beaucoup, dans le détail de la doctrine chrétienne et de ce qu'on pense dans la vie chrétienne, théologique, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, je sais qu'on a beaucoup de visiteurs parmi nous. Je vais faire en français, je ne suis pas capable de prêcher en anglais, je suis désolé. Mais je vais afficher pas mal de versets bibliques et pas mal d'idées. Donc, je pense que vous pourrez suivre. Et pour ceux qui ont des enfants, ne vous inquiétez pas. Je vois qu'ils sont toujours gênés quand ils pleurent. Nous, quand on avait nos enfants, on les amenait toujours. Et ils pleuraient, mais quand le pasteur commence à prêcher, ils dormaient toujours. Donc, ne vous inquiétez pas, laissez-les. Ils vont dormir dès que je commence à parler. Surtout que je ne suis pas le pasteur. Mais quand même. Alors, je vais commencer la méditation par poser une question. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'un génie ? Génie, qu'est-ce qu'un génie ? Et plus, est-ce que vous avez, vous pouvez me donner un nom d'un génie que vous avez connu ou que vous avez entendu parler ? 1, 2, 3, 4, de ce siècle, ou avant ? Est-ce que vous connaissez d'autres génies que celui-là? Einstein. Est-ce que vous connaissez d'autres? Dans d'autres siècles, hein, il y a eu pas mal, non? Bon, on en a quelques-uns, d'accord? Des génies qui sont bien connus et qu'on connaît bien. Regardez ça. Ça, un jour, quand je suis arrivée au travail, le matin, on se met ensemble et on prend un café. Et il y avait mon collègue qui avait reçu ça dans sa boîte à lettres. Et je vous l'ai transcrit telle qu'elle est. Donc, il y a plein de fautes d'orthographe. Ce n'est pas moi qui les ai fait, j'en fais beaucoup, mais pas autant. Pas autant. Et il a affiché, et puis quand je suis arrivée pour prendre mon café, je l'ai regardé comme ça. Je l'ai regardé. Essayons de le lire ensemble. Voilà quelqu'un, un professeur, guérisseur, spécialiste. Vous allez voir, il est spécialisé dans toutes les guérisons possibles. Vous avez de la malchance qui vous poursuit, ne vous inquiétez pas. Votre problème est grave, ne vous inquiétez pas. Vous êtes désespéré, il peut encore vous aider. Téléphonez-lui. Il n'y a aucun problème. C'est un marabout authentique. Ce n'est pas un menteur. Il est authentique. Il peut résoudre tous vos problèmes dans tous les domaines. Attraction clientèle pour ceux qui ont leur propre entreprise. Allez-y. Soutien aux entreprises. Aide aux affaires familiales. Il y en a plein, hein, des affaires familiales. Qui n'en a pas dans sa famille ? Maladie inconnue, qu'est-ce qu'il y en a comme maladie inconnue au XXIe siècle? Amour brisé, ça arrive très souvent. Amour brisé. travail, chance, et puis là, il a mis quelque chose, je me suis dit, dans une église, j'ai censuré. Je ne peux pas le mettre. J'ai censuré. Et puis après, protection contre les dangers, retour de l'être aimé. Mariage, pour ceux qui veulent se marier en mai, hein, pour allez-y, appelez-lui, on ne sait jamais. Contactez-le. Il se déplace. il se déplace, il est disponible. Et il va même travailler par correspondance si vous n'avez pas le temps. Si vous êtes très occupé, par correspondance. Et puis après, il parle plusieurs langues. Il parle le portugais, il parle le français, et là, je ne sais pas c'est quoi. Voilà, merci. Il reçoit tous les jours, il est disponible. Il n'est pas comme nous, hein. Parfois on est en vacances. Lui, disponible de 9h à 21h, 7 jours sur 7. J'ai aussi censuré le numéro de téléphone au cas où. Alors, c'était le moment de détente pour faire l'introduction. Mais je peux vous assurer une chose. Je ne l'ai pas mis, vous pouvez me croire, je ne mens pas. Je ne l'ai pas mis pour se moquer de cette personne. Mais réfléchissons un petit peu. Qui de nous aujourd'hui, dans ce monde, n'a pas ce type de problème cité? Affaires familiales, sentimentales, professionnelles, de santé. Qui de nous? Qui ne souhaite pas vivre une vie heureuse, sans souci? Et la question que je vais vous poser maintenant, qui dans le désespoir ne souhaite pas s'attacher à un espoir au cas où? Bien sûr, au XXIe siècle, on ne croit pas à ça, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce que je perds? Je suis tellement dans le désespoir que je veux m'attacher à n'importe quoi. Un petit espoir, une petite lumière, une petite flamme, l'espoir, qui peut-être va résoudre mes problèmes et m'amener à avoir une vie heureuse. Qu'est-ce qu'un génie? Quelqu'un a changé d'avis sur les noms cités. Il y en a un qui a bien répondu. Si je vous montre ça, à quoi vous pensez? Alexandre a bien répondu. Et là, qu'est-ce qu'un génie? Un génie, c'est quoi? Allez, j'ai une heure, je ne peux pas parler tout seul. Une personne qui fait trois vœux. Une personne, un génie, ce n'est pas un être naturel comme nous, une personne. C'est un être surnaturel qui, quand on frotte la lampe d'Aladin, cette lampe, il apparaît et il dit une phrase que vous ne la connaissez pas, je ne l'ai jamais vue bien traduite. Dit en arabe une phrase que... Elle est impossible à traduire, mais je vais essayer de vous la dire et vous allez comprendre ce que je veux dire. Il dit « ordonne et tu y auras ». Ordonne, c'est pas demande. Ordonne et tu y auras, ton esclave est entre tes mains. Vous savez, les mains sont là pour nous, pour accomplir des choses. Et il se présente comme étant notre esclave, qui est nos mains, et qui va pour accomplir nos ordres, pas nos souhaits. Ordonne et tu y auras, ton esclave est entre tes mains. Et ce génie est extrêmement puissant, il peut tout accomplir. Je pense sauf une chose tuée, mais je ne me rappelle plus. Mais il peut tout accomplir. Est-ce que vous permettez que je remette ça? Je pense que vous avez commencé à saisir qu'est-ce que je veux vous dire, où est-ce que je souhaite vous amener dans la réflexion aujourd'hui. Quand j'ai vu ça affiché, que j'étais en train de prendre mon café, et que j'ai regardé, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas ça qu'on prêche tous les dimanches? Je me suis dit, Simon, si tu changes quelques noms, quelques lettres, quelques noms, et je mets le nom de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un peu ça ce que nous on prêche, ou ce que, à quoi nous croyons. Je voulais faire ce jeu avec vous et vous changer ce petit changement. Je ne me suis pas permis parce que on ne doit pas prendre le nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain et on ne doit pas l'utiliser n'importe comment dans des choses comme ça. C'est la seule raison qui m'a empêché, après vous avoir parlé du génie, de remettre cette affiche en changeant juste quelque chose. Mais faites l'exercice avec moi. C'est un petit peu ce que nous, non seulement on croit, mais ce qu'on prêche. Excusez-moi, j'ai toujours l'habitude de choquer et de vous embêter. Et je ne vais pas aujourd'hui ne pas le faire. Et je me suis posé la question en prenant mon café et en regardant cette affiche. Je me suis dit, mais Simon, quel est l'arrière? Si on croit à ceci, si on croit que Dieu est là pour résoudre tous nos problèmes, pour être là pour tout ceci, et c'est ce qu'on prêche, on ne le dit pas par hasard. On le dit parce qu'on y croit, non? Et si on y croit, il doit y avoir un arrière-plan biblique, évangélique à cela. Alors, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, quelles sont les bases bibliques qui nous amènent à penser de cette manière? J'enlève le professeur Ibrahim, hein? Je reviens dans le contexte biblique. Quels sont les passages bibliques qui nous amènent à penser comme ça? Moi, le premier qui prêche et qui dit ces choses. Alors, je vais vous proposer, dans un premier temps, le balançoire, on va l'amener complètement de côté, et vous dire pourquoi on a raison de penser comme ça. D'accord? Je vais convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus. Dans un deuxième temps, on va renvoyer le balancier complètement de l'autre côté et vous poser la question, est-ce qu'on a vraiment raison de penser comme ça? Je vais vous embêter. Hein? Et mettre un peu le doute. Et puis après, on ramène un peu le balancier au milieu. D'accord? Premièrement, donc, quels sont les passages bibliques qui nous amènent à croire à ceci? Si je vous pose la question, vous les connaissez. Hein? Je vous ai dit, je ne peux pas parler une heure, c'est trop. Demandez et l'on vous donnera. Je vais vous en citer plein, hein, ne vous inquiétez pas. Mais le premier qui nous vient à l'esprit, demandez et l'on vous donnera. Le serment sur la montagne finit comme ça. Demandez et vous l'on donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. On ouvre à celui qui frappe, on donne à celui qui demande. Si méchant... Si, pardon? Oui, on va y arriver à un qui est un petit peu équivalent. Je ne vais pas tout citer, mais on en recitera celui-là. Mais on arrivera au psaume après. Continuons dans les évangiles. Et puis après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais quiconque... Quelqu'un, son fils, lui demande un pain, lui donnera une pierre. Quiconque demande un poisson, lui donne une vipère. Si donc, méchant que vous l'êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père céleste qui est dans les cieux ne donnera pas des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. C'est clair, net et précis. Luc 11, il le reprend dans un contexte différent du sermon sur la montagne, mais textuellement, il dit ceci. Il dit exactement la même chose. Continuons notre réflexion et prenons l'évangile de Jean. Que dit Jésus? Jean, à partir du chapitre 14, il va y avoir Thomas qui va lui dire Jésus qui dit qu'il va, qu'on est le chemin, Thomas veut lui dire, montre-nous le chemin, et puis Philippe va lui dire qui est le Père. Et à partir de cette question de Philippe, Jésus, pendant quatre chapitres, 14, 15, 16, 17. Si vous avez une Bible comme moi où les paroles de Jésus sont en rouge, pendant ces quatre chapitres, vous ne trouverez que du rouge. Jésus va parler pendant quatre chapitres, va continuer à enseigner. Et tout son enseignement va tourner autour d'un petit peu, c'est demander et vous recevrez. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Chapitre 15, il va le répéter un petit peu différemment. Il va leur dire, demandez, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jusqu'au chapitre 17, je ne veux pas tout vous citer, relisez votre Bible cette semaine chez vous, reprenez ces quatre chapitres et vous allez voir qu'il va répéter ça souvent. Jacques, chapitre 4, verset 2, que dit-il? Il y avait des problèmes, des gens riches, des gens pauvres, des gens qui ne s'entendent pas, des gens qui vont avoir les honneurs dans l'Église, des gens qui n'ont pas l'honneur. Et Jacques, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, vous convoitez, vous ne possédez pas, parce que vous êtes meurtrier, vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Et le dernier, c'est mon préféré. C'est celui que je connais par cœur et que je cite tout le temps. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. C'est mon préféré, je l'aime beaucoup. Et j'y crois. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Je vais arrêter là, mais faites l'exercice. Reprenez tous ces passages, relisez-les. Oui, il y a demandez et vous recevrez. Demandez et l'on vous donnera. Et puis après, on peut parler de guérison autant que vous voulez. Beaucoup d'exemples dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Est-ce que j'ai besoin d'y revenir? Vous connaissez tous votre Bible. Vous savez la quantité de miracles, de guérisons, de toutes sortes de miracles qu'il y a dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Rien à dire à ce sujet. Intervention de Dieu dans notre vie. Oh, qui n'a pas cité Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous connaissez tous la suite, je n'ai pas besoin de vous le citer. Psaume 34, 7. Moi, j'ai prêché sur celui-là il y a 2-3 ans à peu près, avec une pleine conviction, et si j'avais à le refaire, je le referais. Parce que je suis convaincu, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et j'ai prêché sur ce verset, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Vous vous rendez compte la force de ce verset? Il les arrache au danger. Plus qu'il les délivre, il les arrache. Et le verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'espère que vous croyez comme moi à tous ces versets. Si je vous les cite, c'est parce que j'y crois. Continuons notre réflexion. Nous, on est des évangéliques, hein? Je vous l'ai dit dès le début. D'accord? Et les évangéliques, ils ont toujours la réponse à tout. Moi aussi. Donc, si ce que vous demandez, vous ne le recevrez pas, ben, il y a la réponse. Matthieu chapitre 17, verset 20. Vous savez, après la transfiguration, Jésus est redescendu. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve ses disciples avec quelqu'un qui a amené son fils lunatique. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Il leur dit, race incrédule, jusqu'à quand je vais rester avec vous? Puis il a guéri. Puis les disciples lui ont posé la question, pourquoi eux n'ont pas pu le guérir? Il leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Et il répète la même chose. Matthieu 21:21, quand le figuier, quand il a parlé au figuier qui s'est desséché rien qu'à la parole du Christ, ça a étonné les disciples. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Et il ajoute un peu plus loin et il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Je me demande à quoi ça sert que je continue ma méditation de ce matin. Non? C'est clair. Et même, on va pouvoir donner des exemples. Ce n'est pas uniquement de la théorie. Il y a des exemples pratiques dans la Bible qui confirment ce que je suis en train de dire. Abraham, la vie d'Abraham, tout ce qu'il a reçu comme bénédiction, comme richesse, et ainsi de suite, c'était l'homme peut-être le plus riche, je ne sais pas. Mais on connaît tous sa vie. Isaac, Jacob, Joseph, il est même devenu le premier, comme on le dit, ou le deuxième après Pharaon, quand même. David, on va vous raconter l'histoire de David, Salomon, la puissance, la réussite. Job, à la fin de sa vie, il a été encore plus riche qu'avant. Comme si ce n'était pas assez riche, toutes les richesses que la Bible nous citait au début. Gaius, quand Jean a écrit à Gaius, on voit bien quand même que c'est une personne, non seulement a reçu plein de dons spirituels, de sagesse spirituelle, mais aussi dans sa santé et dans sa richesse. Donc, Dieu agit et Dieu bénit et Dieu répond aux demandes. Et on en a plein d'exemples bibliques qui nous le montrent. Et puis après, on voit bien aussi dans la Bible où Dieu répond quand les gens demandent des miracles. Élie, vous connaissez, hein, il a prié et il n'y a plus de pluie. Il prie et la pluie arrive. D'accord? Il prie et la veuve de Sarepta, son fils ressuscite. Élisée aussi. Dieu répond quand les gens demandent, quand ils font. Donc des exemples bibliques, on en a. Guérison des malades par Jésus, il y en a plein. Quand l'Acte des Apôtres nous dit, quand Pierre était emprisonné, Hérode allait le mettre, Jacques un peu avant lui a été tué. Et puis après, lui, le lendemain, Hérode allait passer Pierre devant le Sanhédrin, justement pour qu'il subisse la même peine. La Bible nous dit, Acte nous dit, l'Église priait et un ange est parti et il l'a délivré. Des miracles, donc, il y en a. Il y en a eu, on ne peut pas nier. Ça existe, la réponse de Dieu à prière, à la demande. Corinthiens 12:28 nous parle des dons des miracles. Des dons de guérison, on ne peut pas le nier non plus, sauf si il y a des choses qu'on n'aime pas et qu'on veut fermer les yeux dessus. Ça existe, c'est un don. Faire des miracles et opérer des guérisons, les deux. Alors, qu'est-ce que je fais? Avant de vous ramener le balancier complètement de l'autre côté et d'essayer de titiller un petit peu notre intelligence, j'ai besoin de revenir sur quelque chose. Vous savez, quand j'ai un texte, comme par exemple ceci, ce message, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Ne croyez pas que quand on a une méditation, tiens, qu'est-ce que je fais ce dimanche? Ce sujet me plaît, je vais m'y mettre. C'est très rare. Normalement, les passages bibliques, on les a. Et puis après, petit à petit, ça travaille dans notre tête. Celui-là, il a mis presque un an avant qu'il soit un peu clair et structuré, savoir ce que je vais te dire. Et un jour, j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup aidé et que je vais maintenant vous en parler. Un gros livre théologique de quelqu'un qui s'appelle Wayne Grudem. Moi, je ne le connais pas, mais peut-être vous le connaissez. Ce livre, il faut, qui s'appelle Théologie systématique. Il est grand comme ça, épais comme ça. Je pense qu'on doit l'avoir dans notre bibliothèque parce qu'il présente la base de notre théologie évangélique. Et j'ai lu un petit peu ses réflexions à ce sujet et qu'est-ce qu'il en pense à ce sujet. Et si je le reprends un petit peu, vous faire un résumé, je l'ai restructuré un petit peu différemment, et je vais vous faire un résumé de cette partie « Que dit la Bible des miracles et des prodiges ?» avant de repartir le balancier complètement de l'autre côté. Juste, je répète, lorsque je ramène le balancier de l'autre côté, ça ne veut pas dire que je suis à 100% d'accord. C'est juste pour titiller notre intelligence et à réfléchir un petit peu sur ce qu'on a pu croire quand le balancier était de ce côté. Et on revient après au milieu. D'accord? Mais avant, poursuivons notre réflexion et regardons que dit la Bible des miracles et des prodiges. Alors, il dit la chose suivante, premièrement. Les miracles sont caractéristiques de la nouvelle alliance. C'est un petit peu comme l'effusion de l'Esprit-Saint. Pour ceux qui ont fait les actes des apôtres en étude biblique, rappelez-vous, il y a un an et demi, lorsqu'on a commencé, on n'a pas commencé par le premier chapitre directement, puisque c'était l'effusion du Saint-Esprit. On a commencé par parler un petit peu de comment l'Esprit était donné dans l'Ancien Testament, sous l'ancienne alliance. Quelle était son action? On a vu qu'il a été donné à certaines personnes pendant une durée. Mais qu'avec la Pentecôte, avec la nouvelle alliance, il y a eu l'effusion de l'Esprit qui a été donnée à tout le monde et pas uniquement à certaines personnes. Et c'est un petit peu dans les miracles. Sous l'ancienne alliance, on voit bien des miracles, mais pas beaucoup. On voit un petit peu avec des personnes éminentes. Vous connaissez tout ce que Moïse a fait, je n'ai pas besoin de le reprendre. Des personnes comme Élie, des personnes comme Élisée qui ont fait des miracles. On peut citer quelques autres, mais je laisse ces trois noms parce que c'est trois qui nous parlent le plus. Et on peut toujours se rappeler, puisqu'on connaît bien, de ce qu'ils ont fait. Donc il y a eu des miracles, mais ce n'était pas l'effusion telle qu'on commence à le voir sous la nouvelle alliance. Et là, en Luc chapitre 4, versets 36, 37 et 40, 41, on voit cette effusion de miracles. Quand je dis miracles, je ne parle pas que des guérisons, hein? D'accord? C'est tout type de miracles que je parle. C'est pour cela, parfois, je dis miracles et prodiges. Tout type de phénomène non particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est toujours ça, d'accord? Quel que soit le type. Et on voit bien qu'après le baptême de Jésus, il est parti 40 jours dans le désert, il a été tenté, puis plouf, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans une synagogue, il va lire Ésaïe 61 sur le Messie qui va venir ainsi de suite, que Dieu va, que l'Esprit des Seigneurs est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir, ainsi de suite, pour guérir et proclamer une année de repos, ainsi de suite. Où il dit, il parle que c'est lui qui est là pour annoncer tout ce qui va y arriver. En gros, un petit peu le royaume de Dieu. Et de suite après, on voit une effusion, toujours 36, 37, 40, 41, des miracles. Plein de miracles. Et Luc va arrêter de les citer. Il va dire, on a amené beaucoup de personnes malades et il les a guéris. Une explosion de miracles avec Jésus et avec la nouvelle naissance. Et puis après, qui ne connaît pas 1 Corinthiens 12, je viens de le citer. Le don de faire des miracles, le don de guérir est un don. On ne peut pas le nier. Et puis quand Paul écrit aux églises de Galatie, Galates 3, 5, on voit bien qu'eux, ils en ont plein de miracles. Et c'était quelque chose de normal. Ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Les miracles et les prodiges dans toute la Galatie. Toute la Galatie, c'était quelque chose de normal. Une effusion de miracles. Et après, M. Wayne commence à réfléchir et il dit, très bien. Mais est-ce qu'on peut savoir un petit peu le pourquoi? Quels sont les buts des signes, des miracles et des prodiges? Quel est leur but? Pourquoi? Cette effusion. Et là, il en donne plein que je vais vous résumer en trois. Juste, je les résume. Le premier, l'un des buts des miracles est d'authentifier le message de l'Évangile et ou la personne qui l'annonce. Authentifier le message de l'Évangile ou bien et ou la personne qui est en train de l'annoncer. Et j'ai fait l'exercice avec lui. J'ai repris tous les miracles dont on parlait et on trouve bien cela. Et je vais vous en prendre quelques-uns. Jean 3, 12. Nicodème, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il lui a dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » On continue. Après la transformation de l'eau en vin, qu'est-ce qui est arrivé? Jean 2, 11. Ce fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. On continue. La Samaritaine. La Samaritaine s'en alla. Pourquoi elle a cru? Parce que Jésus a fait des prodiges. Il lui a dit tout ce qu'il y a en elle que personne ne sait. Un prodige qu'il a fait. De l'homme qui était aveugle de naissance, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Quand on lui a dit, est-ce que c'est lui qui a péché? Il dit non, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pour que je fasse, pendant qu'il est jour, les œuvres de mon Père. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Selon Pierre, quand il a commencé à prêcher l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il a dit de Jésus? Il a dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes. C'est Dieu qui a rendu témoignage de tout ce qu'il fait. Continuons notre réflexion. Quand Philippe se rendit en Samarie et prêcha le Christ, foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vire les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent, il eut une grande joie dans cette ville. À cause des miracles. Et puis, le paralytique est né. Par l'assistance du Saint-Esprit, quand Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydda. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans. Et paralytique, Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lydda et du Saran le virent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait un but, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Lorsque Tabitha est revenue d'entre les morts, acte 9, 42, cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. On continue. On voit également dans le ministère de ce qu'il avait entendu Jésus annoncer. Hébreux, celui qui a écrit la lettre aux Hébreux, qu'a-t-il dit? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit selon sa volonté. Je vais arrêter les citations là, mais vous pouvez en retrouver plein beaucoup. Quand Dieu, il y a des signes et des miracles, c'est toujours dans le but, c'est pas toujours. Dans 70% des cas, c'est pour authentifier le message de l'Évangile et ou la personne qui l'annonce. Mais ce n'est pas. Donc, quand les signes et miracles et prodiges se produisent, il apporte la preuve que Dieu est vraiment à l'œuvre. Et oui, le dernier, j'allais oublier. C'est Jean. Jean, qu'est-ce qu'il dit? Jean dit qu'il a écrit que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Même tous les miracles cités dans Jean, ils finissent en livre par ça en disant, mais Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, mais je vous ai écrit ceci pour servir de témoignage, afin que vous sachiez que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, quand il y a des miracles, des signes, des prodiges, ce n'est pas gratuit. Dieu ne le fait pas pour rien. Il est fait dans un but précis, authentifier le message ou la personne qui est en train de le dispenser. Mais ce n'est pas que ça. Il est aussi donné pour annoncer le royaume de Dieu. Vous savez, le royaume de Dieu va être un royaume où il n'y a plus de maladies, plus rien, où on va vivre sans les soucis qu'on a aujourd'hui. Et c'est ce qu'il a dit le Seigneur à ses disciples. Il leur dit, allez, prêchez le royaume de Dieu, guérir les malades et annoncer qu'il y a le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont prêcher la parole, annoncer le royaume, guérir les malades, pour leur montrer que ce qui a été dit en Ésaïe 61, il est en train de l'accomplir. Le royaume de Dieu est parmi eux. Et il y a un troisième but à cela. C'est quand de supprimer tout ce qui nous empêche de le servir. Dès que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, elle se leva pour le servir. Et quand Dieu a eu pitié d'Épaphrodite, en Philippiens chapitre 2, versets 25 à 30, c'est ce qu'il dit l'apôtre Paul, qu'Épaphrodite était malade, mais que Dieu a eu pitié de lui, mais non uniquement de lui, mais aussi de Paul, parce que Épaphrodite était envoyé par l'église de Philippe afin de servir Paul, Paul qui prêchait l'évangile, et c'était Épaphrodite qui travaillait pour subvenir à son besoin. Or, il a été malade, il ne pouvait plus le faire. Et c'est ce qu'il a dit Paul dans cette lettre. Dieu a eu pitié non seulement d'Épaphrodite, mais de lui-même. Et Dieu l'a guéri et il a pu, après continuer verset 30, à servir l'apôtre Paul, être auprès de lui pour l'assister dans ce qu'il est en train de faire. Donc il y a trois raisons à cela. Le premier, c'est authentifier. Authentifier le message de l'évangile et de celui qui le prononce, qui l'apporte. Le deuxième, dire que le royaume de Dieu est déjà parmi nous, même si on ne le vit pas encore complètement. Et la troisième, empêcher tout ce qui peut être un obstacle à servir Dieu. Mais dans tous les cas, qui est le centre? L'évangile? Dieu. En aucun cas, nous-mêmes. Vous êtes d'accord? En aucun cas, nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas au miracle. Juste, je suis en train d'avancer dans la réflexion. N'oubliez pas ça. N'ayez pas des conclusions rapides. Juste suivez-moi dans la réflexion. Continuons maintenant et reprenons les exemples bibliques. On a cité plein d'exemples bibliques des gens que Dieu a répondu à leur prière par des miracles et des prodiges. Reprenons-les et juste posant des questions, je vous laisse la réponse à vous-même. Abraham était-elle si facile sa vie? Les bénédictions coulaient-elles si facilement? Du moment où il lui a annoncé qu'il va avoir un héritier, combien de temps s'est-ce produit jusqu'à ce qu'il ait eu? Combien d'années? Et combien d'épreuves il a passé jusqu'à ce qu'il ait eu? Nous, on lit la Bible, plutôt avec des lunettes qui nous font reculer. Hein. On n'a pas vécu ces dizaines d'années avec Abraham. On n'a que quelques passages et on croit que ça y est, Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant, ça y est, il l'a, c'est fini. Pas du tout. Quand il lui a dit, quitte le pays où tu es et va vers la terre promise, il ne l'a jamais vu. Hein? D'accord? Il était bédouin tout ce temps. Ce n'était pas une vie facile. Les miracles dans sa vie n'étaient pas du tout instantanés. Ce n'est pas il frotte la lampe et pouf, le génie apparaît et il lui dit, ça y est, c'est fait. Il ne faut pas lire la Bible de cette manière. Il faut savoir que les promesses qui lui ont été données ont eu beaucoup de temps afin qu'elles puissent être accomplies. Pareil pour Isaac, Jacob, surtout pour Joseph. Vous connaissez tout ce qui est passé avant d'avoir sa position devant Pharaon. David, on parle de David. Mais David, où est-ce qu'il a passé le plus clair de son temps? Où? En fuite. Le plus clair de son temps en fuite, de sa vie, il était en fuite comme un voleur avec des brigands. Sa première armée était des brigands. Je ne sais pas si on est conscient. Les souffrances dans sa propre famille, qui aimerait avoir un fils comme Absalom? Qui? L'inceste? La révolte contre son père? Hein? Qui aimerait avoir un fils comme lui? On n'a qu'à regarder les psaumes qui crient vers l'Éternel sa souffrance et son désespoir. Donc, ce n'était pas la lampe magique à chaque coup, non plus. Salomon, avec ses richesses et sa puissance, je crois que nous qui connaissons la vie de Salomon, on aimerait dire, je ne veux ni sa richesse, ni sa puissance, mais ne pas faire ce qu'il a fait. Vous êtes d'accord? Les bénédictions qu'il a eues, autant ne pas les avoir. Continuons notre réflexion. Prenons les exemples des apôtres. Qu'a-t-il dit l'apôtre Paul de lui-même? Il le répète aux Corinthiens d'une manière inimaginable. Regardez ce qu'il leur dit. Il ne parle pas que de lui, il parle de tout ce qui œuvre pour Dieu avec lui. Il dit, ils sont des vases de terre. Ils sont pressés de toutes parts, dans la détresse, persécutés, abattus, portant dans leur corps les marques de Jésus, livrés à la mort. C'était ça leur vraie vie. C'était ça leur vraie vie. Les apôtres. Ce n'était pas une vie toute jolie, toute belle, où Dieu leur répond à tout ce qu'ils veulent. C'était ça leur vie. Ils portent dans leur corps les marques de Jésus. Vous savez ce que ça veut dire? Les souffrances de Jésus. Ils les portent dans leur corps. C'était ça leur vraie vie, les apôtres, malgré tout ce qu'ils ont fait, comme miracle et comme prodige. Et l'épître aux Hébreux, celui qui l'a écrit, après avoir décrit et fait l'éloge de tous les hommes de la foi, Abraham, Moïse, Enoch, tout, il leur a fait leur éloge et tout ce que Dieu a fait pour eux, vous savez comment il finit son chapitre? Il finit son chapitre comme ça. Il dit, et pour les autres, j'ai enlevé et pour les autres qui étaient un peu en avant, subir les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée, persécutés, maltraités. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. N'ont pas obtenu. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Il finit le chapitre 11 comme ça, alors qu'il l'a commencé par l'éloge et la réponse à la foi de plein de gens qu'on connaît, Enoch, Moïse, ainsi de suite, Abraham. Il finit. Et les autres, il dit, et les autres, eux, voilà ce qu'ils ont. Voilà ce qu'ils ont eu. Si on veut reprendre les exemples bibliques pour confirmer la théorie, il faut qu'on reprenne tous les exemples bibliques et pas uniquement les exemples qui nous intéressent et qui vont dans notre sens. Continuons et posons-nous la question, n'ont-ils pas bien frotté la lampe magique? Est-ce que peut-être ils ont soufflé juste, ils n'ont pas bien frotté? Vous savez, on le dit dans l'histoire, hein? Il faut bien frotter la lampe pour que le génie apparaisse. Ont-ils manqué de foi, ces gens? Pas du tout. Il est en train de faire l'éloge de leur foi. Pas du tout. Vous comprenez? Ce n'est pas évident. Continuons notre réflexion. Vous êtes d'accord? Vous ne dormez pas? Vous êtes sûr? continuons la réflexion aujourd'hui. Et là, je vais amener le balancier de l'autre côté. Et là, je fais exprès. Donc, pardonnez-moi, s'il vous plaît, ayez patience. On va ramener le balancier de l'autre côté rien que pour réfléchir. D'accord? Hein? Rien que pour réfléchir. Ramenons le balancier maintenant complètement de l'autre côté. Reprenons toutes les paroles, tous les versets bibliques que je vous ai cités au début. Vous êtes prêts à faire l'exercice? D'accord. Reprenons tout ça. On va reprendre Matthieu, on va reprendre Luc, on va reprendre Jean 14, 15, 16, et vous pouvez aller jusqu'à Jean 17, hein? Tous. On va les reprendre. On va reprendre Jacques, on va reprendre Philippiens. Et essayons de continuer notre réflexion. Rappelez-vous, le balancier, maintenant, il est de l'autre côté. D'accord? Si on reprend Jean 4, il est question de quoi? Vous vous rappelez du verset? Si vous l'avez oublié, vous permettez, je vais vous le relire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Demandez, et je vous donnerai. Fera les œuvres que je fais. Commençons par poser des questions. Juste, on pose des questions. De quelles œuvres parle-t-il? De quelles œuvres parle-t-il? Est-ce que ces œuvres se limitent aux miracles? Je vous ai dit, il commence comme ça son discours, son enseignement avec eux. Et il va le poursuivre au chapitre 14, 15, 16, 17. Il n'y a que lui qui va parler. Pendant quatre chapitres, relisez-le. Et réfléchissez de quelles œuvres il voulait dire, il voulait parler. Dans tous les passages cités dans l'évangile de Jean, le contexte était de porter du fruit. Chapitre 15, il va dire quoi? Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron, et tout serment qui ne porte, qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, je vais, ainsi de suite. Il va développer tout le chapitre 15 là-dessus. De quel fruit parle-t-il? Et c'est là où il va leur dire, chapitre 15, après parler des fruits, il va leur dire, demandez et vous recevrez. Continuons notre réflexion. Reprenons Matthieu. C'est le premier concile. Demandez et l'on vous donnera. Et il finit. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Luc, je vous ai dit qu'il reprend mot pour mot ce passage. Mais à la fin, il dit autre chose. Au lieu de mot pour mot, mais au lieu de dire « donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» il dit « Votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Un autre document ancien, il ne dit pas « donnera le Saint-Esprit », il dit « le bon don ». « Votre Père Céleste nous donnera le bon don à ceux qui le lui demandent. » Mais ce verset, il a été dit, le serment sur la montagne. Le serment sur la montagne, combien de chapitres il y a? Je vous pose la question le temps que je le retrouve. Il y a chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Il y en a trois chapitres sur le serment sur la montagne. Et il finit avec ce Matthieu, chapitre, Matthieu 7, 7. Mais reprenons, qu'est-ce qu'il a prêché Jésus dans le serment sur la montagne? Quelqu'un peut me le dire? Le royaume. Mais il commence par quoi? Les béatitudes. Et de quoi il parle les béatitudes? De quoi? Bon, vous le connaissez. Pas de nos relations avec Dieu, de nos relations avec les gens. Et après, il continue, il poursuit. Heureux lorsqu'on vous outrage, qu'on vous persécute, que vous ne faites pas le mal. D'accord? Il parle pendant. Le temps passe et je ne veux pas. J'avais prévu de vous citer quelques-uns pendant ces trois chapitres, 4, 5, 6, 5, 6, 7. Mais reprenez-le, relisez-le chez vous. Il parle que de notre vie avec Dieu, notre manière de se comporter avec Dieu, notre manière de se comporter avec les autres, notre fruit, comment être la lumière du monde, comment être ses témoins. Et il finit par dire, demandez et l'on vous donnera, je vous trouverai, ainsi de suite. Parce qu'il sait qu'on n'est pas capable par nous-mêmes de faire ceci. Bien sûr, on peut parler des miracles si on veut. Ça ne me gêne pas. Mais le contexte de Matthieu 1er, c'est le contexte du sermon sur la montagne. C'est le fruit de l'esprit. C'est notre manière de vivre avec les autres, notre relation avec Dieu, notre capacité à le faire et le fait de demander au Christ de venir nous aider. Continuons notre réflexion. Ce que je viens de vous lire en Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, faire les œuvres que je fais, demander, et il finit quoi son verset? Vous vous rappelez? Il était affiché. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié. Et reprenez les trois chapitres, les quatre chapitres, jusqu'au chapitre 17. C'est demeurer en Christ. C'est demander, porter du fruit et que le Père soit glorifié. Si vous ne me croyez pas, reprenez le sermon sur la montagne, 5, 6, 7, et relisez Jean chapitre 14, 15, 16 et 17. Premièrement, demeurez en Christ. Portez du fruit, demandez afin que le Père soit glorifié. Afin que le Père soit glorifié. Continuons notre réflexion. Je vous ai cité Jacques, parce que vous ne demandez pas. De suite après, qu'est-ce qu'il dit? Vous demandez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. J'ai envie aujourd'hui, rien que pour vous choquer, hein, je n'ai pas le droit de changer la Bible. Pour satisfaire nos besoins, est-ce que vous permettez que, juste je vous pose cette question. Mais à ce moment-là, dans l'épreuve, faut-il prier pour être débarrassé ou prier comme Jésus, que ta volonté soit faite? Je continue ma réflexion. Faut-il prier pour être débarrassé ou prier pour trouver le chemin pour s'en sortir? Parce que Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit, aucune tentation, aucune preuve, ne vous est humaine. D'accord? Mais Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare le moyen de s'en sortir. Quel est mon besoin? Que veut dire demeurer en Christ à ce moment-là? Quelle est sa volonté quand je demande quelque chose? N'est-ce pas cela que ça veut dire demeurer en Christ? Comme l'a compris l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par les œuvres, pour la gloire de Dieu, même si c'est par les souffrances et les épreuves. C'est ce qu'il a dit de Corinthiens quand il a dit comment eux, ceux qui prêchent la parole, comment eux vivent, qu'est-ce qu'ils sont devenus, vases de terre, persécutés, ils portent en eux la marque de Jésus-Christ. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini. Reprenons maintenant Philippiens 4, 6, le texte que j'aime énormément. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Hein? Pour Jacques, j'ai enlevé, j'ai mis nos besoins, vous vous rappelez? Si vous permettez, je me le suis permis. Et en Philippiens, il le dit, vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Vous connaissez la suite? Oui, il y en a qui me disent oui, j'espère. Et verset 7, de suite après, quelle est la réponse de Dieu? Lampe magique, ça y est, je vous l'accorde? Non, ce n'est pas ce qu'il dit l'apôtre Paul, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Avez-vous réfléchi à ce verset? Est-ce que ça vous dit quelque chose si vous le ruminez, si vous le mâchez, si vous le rédigez? Que veut dire garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ? Quelqu'un le sait-il? Quelqu'un le sait-il? Je vous pose la question le temps que je retrouve mes versets. Vous pouvez ne pas répondre, ce n'est pas grave. Il y a deux choses dans la Bible. Il y en a trois. Je vais commencer par citer les deux premiers que j'aime beaucoup. C'est Philippiens. C'est pour cela que je l'ai laissé pour la fin. La réponse de Dieu à la prière. C'est pour cela que je l'ai laissé. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Il y a un deuxième passage dans la Bible. Oui, il y a un autre passage dans la Bible. C'est le psaume 73. Je ne sais pas si vous connaissez le psaume 73. Il y a très longtemps, on a prêché sur le psaume 73. Le psaume 73, c'est un psaume que vous devriez connaître par cœur, théologiquement. Théologiquement. Parce que c'est la réponse à beaucoup de nos questions. Je ne comprends pas comment on pose des questions et je vois toujours des gens qui répondent à côté, même des gens éminents dans la connaissance théologique, alors qu'il suffit de lire le psaume 73. Psaume 73, c'est le psaume de quelqu'un qui s'appelle Asaph. Vous savez, il allait perdre sa foi. Vous savez pourquoi? Parce que il dit, on lui a appris que Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. En d'autres termes, si lui, il a le cœur pur, c'est tout à fait normal que Dieu le bénisse, que Dieu le garde, comme Abraham, comme les autres. Peut-être qu'il soit riche, j'en sais rien. C'est ce qu'il sait. Dieu est bon pour Israël, il cite, pour ceux qui ont le cœur pur. Et pourtant, lui, il n'est pas du tout dans ce cas, et pourtant, il a le cœur pur. Il obéit à la loi. Il dit, toutefois, mon pied allait fléchir, mes pieds étaient sur le point de glisser. Tellement il a vu que les méchants prospèrent, il va le dire, et que rien ne leur arrive, et que lui, qui aime Dieu, qui veut faire selon la loi, il n'est pas du tout heureux, il n'a pas les bénédictions qu'ils attendaient. Et à cause de ça, son pied allait fléchir. Dans la logique orientale, ça veut dire, je vais tomber, je vais rejeter Dieu, puisque ce n'est pas vrai ce qu'on m'a dit de Dieu, ou Dieu n'a pas dit ce qu'il fait. C'est ça, j'allais tomber, il dit, en regardant, en voyant tout ce qui se passe. Et au milieu, il commence à réfléchir, un petit peu comme on est en train de faire ce matin. Il commence à réfléchir. Et plouf, Dieu va lui répondre d'une manière. Et il va réfléchir jusqu'à ce que, il a dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, la difficulté fut grande à mes yeux. Comme nous tous, quand on prie et quand on n'a pas la réponse de Dieu à notre prière. La difficulté est grande, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut dire. Lui aussi, il n'avait pas la réponse. Mais il a dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final de mes chants. Il dit, lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide, j'étais à ton égard comme les bêtes. Voilà, lorsqu'il a douté, j'étais à ton égard comme des bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil et tu me recevras par ta gloire. La réponse de Dieu à lui, elle est là. Dans les épreuves, quand on est dans les problèmes, la réponse de Dieu à sa prière, il l'a gardée. Il n'a pas permis que son pied chancelle, malgré tout. C'est un peu le pas dans les sables, vous connaissez tous ce poème. Où chaque fois on trouve deux pas, et dans le malheur, quand on est dans le malheur, on regarde derrière et on ne trouve que deux pas, une seule paire de pas. Et que dit le poème? Mais c'est parce que Jésus nous portait. C'est pas parce qu'il n'a pas été avec nous. C'est exactement ça. Et là, on comprend que veut dire garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça sa promesse pour nous. garder notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait avec Asaph. Il allait tomber, faire comme les méchants, vivre comme eux, parce qu'il ne croit plus en Dieu. Il n'a pas répondu. Et quand il a réfléchi, il a compris. Dieu, le miracle qu'il a fait dans sa vie, c'est qu'il a gardé. Je vois le temps qui passe. J'aurais pu encore en dire plus, mais le temps passe et passons à la conclusion. On n'a pas fini. Après la conclusion, vous allez me donner une minute encore. La conclusion. Dieu n'est pas notre génie à tout faire à la manière de celui de la lampe d'Aladin. C'est pas Dieu pour nous. C'est pas ça qu'il nous a dit. Il n'est pas la lampe d'Aladin et ordonne et tu auras ton esclave est entre tes mains. C'est ce qu'il dit le génie quand il sort. Il dit ça. Et j'aimerais citer les paroles de Samuel quand Dieu l'appelle. Il ne vient pas vers Dieu en disant « Hé Seigneur, je suis là, écoute ce que je vais te dire. » Non, il lui dit « Parle Éternel, ton serviteur, le mot en hébreu c'est ton esclave, ton serviteur, écoute. » Et pas « Écoute Seigneur ». En d'autres termes, ce que je veux vous dire, quand on est dans les problèmes ou dans quoi que ce soit, avant tout, avant de dire, de frotter la lampe d'Aladin, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas la frotter. J'ai dit avant de commencer à frotter, s'arrêter et dire, Seigneur, parle-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose? Que nous dit Jacques? Hein? Qu'est-ce qu'il dit Jacques? Ah, ça y est, je l'y ai. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je crois que Gabriel l'a cité quand il a parlé. Je ne sais pas si c'est toi ou une autre, je pense que c'est toi. Que vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Il y a une raison. Si Dieu envoie quelque chose, il y a une raison. Et avant de frotter la lampe d'Aladin, commençons par poser la question. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et pas Seigneur, je suis là, écoute-moi, j'en peux plus. Mais on a raison de le dire. Je ne le nie pas. Mais commençons juste par dire, c'est ce que je suis en train de dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Avant tout. Et est-ce que nous attendons Dieu là où il nous a dit qu'il sera? Est-ce qu'on s'est fait notre propre idée de Dieu et on se dit, Dieu, il est là, il m'attend là? Vous savez, si nous l'attendons dans les miracles, quels que soient les miracles, hein, et qu'il nous a dit qu'il sera dans le réconfort, dans la protection, dans la croissance spirituelle, dans la patience telle qu'on vient de lire en Jacques, ben, nous risquons de l'attendre très longtemps. Nous risquons de l'attendre très longtemps. Mais pire que cela, ne l'ayant pas vu là où nous l'attendons, où l'attendions, nous risquons de perdre la foi. On s'attend à Dieu là, et lui nous a dit, mais moi je suis là. Donc avant toute chose, sachant où Dieu nous attend. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut de nous? C'est le premier pas, la première réflexion qu'il faut qu'on ait. Écoute Seigneur, ton serviteur parle, comme il a dit Samuel. Et la dernière, Pierre, hein, il a été cité, je l'ai laissé pour la fin, comme bouquet. Déchargez-vous de lui de tous vos soucis. Oui, déchargez, oui, il nous demande de se décharger. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ après que vous aurez souffert. Vous perfectionnera, voilà le but. Vous affermira, vous fortifiera. Et moi, j'aime beaucoup ça. Plus tard, vous rendra inébranlable. Et pouvoir dire, comme Asaph, c'est comme ça qu'il a fini Asaph, son psaume. Une phrase merveilleuse. Il a dit, « tout ce qui peut m'arriver, excusez-moi le mot, je veux le dire en français courant. Non, je veux le dire, je ne veux pas le dire. Ça m'est égal, pour ne pas dire autre chose. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, quoi qu'il arrive. Il a fini par comprendre. Il a dit, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Voilà où Dieu l'a amené. Voilà où Dieu, quand il nous envoie des épreuves ou quelque chose, quoi qu'il en soit, alors que nous, on commence par frotter la lampe. Seigneur, écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire avant de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours mon cœur et mon partage. Voilà pourquoi il faut se rappeler Philippiens 4, 6, 7. Pierre, ce que je viens de dire, et connaître bien psaume 73, le psaume d'Asaph. C'est ça qu'il faut connaître comme bagage dans notre vie. Ah, vous me regardez tous, j'ai renvoyé le balancier maintenant complètement de l'autre côté. Mais je ne crois pas trop complètement de l'autre côté, vous avez compris. Mais maintenant, pour le ramener au milieu, ben, je suis désolé, il est midi, je n'avais qu'une heure, j'ai pris une heure et quart. Donc, vous savez que quand on fait une étude comme ça, sur la question de la foi, le mardi d'après, on le reprend. Et on peut continuer. On le reprend et on continue. Alors, mardi prochain, à cause des vacances, il n'y en a pas. Donc, vous êtes en vacances, pour ceux qui viennent aux études bibliques. Mais le mardi d'après, le mardi 24 avril, on vous donne rendez-vous pour continuer notre réflexion qu'on n'a pas finie. Déjà pour répondre à vos questions, et sur ce côté complètement, et sur l'autre, et après, on va ramener au milieu. Parce que Jésus ne réprimande jamais une personne qui s'approche de lui dans la foi ou dans le besoin. Mettez ça en tête. Mettez ça en tête ce matin. Dieu, Jésus, ne réprimande jamais. Jamais. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas prier pour la guérison ou pour avoir des miracles. J'espère que vous avez compris. Ce que je veux, c'est qu'on ait une base solide. Et quand on demande, on sache pourquoi et comment. C'est ça mon but. Ce n'est pas de me dire ne le faites pas. Dieu, Jésus ne réprimande jamais. D'accord? Hein? On en reprendra ça encore dans les détails mardi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués ou chargés, je vous donnerai du repos. Il est normal que nous demandons à Dieu d'intervenir dans le cas où une intervention extraordinaire est nécessaire. Nous ne devrions pas hésiter à lui demander d'intervenir selon sa volonté. Et on aura quelques autres questions. En quoi le miracle demandé glorifie Dieu? Avant de demander, on rentrera dans ces détails. Est-ce que pour mon besoin émotionnel, pour la gloire de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Est-ce qu'il veut que je prie pour que son nom soit glorifié par un miracle devant les gens? Hein? Ou bien, c'est ma grâce te suffit, comme il a dit à l'apôtre Paul. Dans quel cas? Comment discerner cette volonté de Dieu? Et puis, est-ce que cela veut dire que je n'ai pas à demander à Dieu quelque chose pour mon propre besoin ou mon propre plaisir? On essaiera de répondre à ces quelques questions le mardi 24 avril à 20h. Voilà. Je pense que personne n'a dormi, même pas les enfants. Si vous avez dormi, c'est que vous êtes des grands enfants, c'est pas grave. Donc, je n'ai plus rien à dire. On ne va pas poser des questions aujourd'hui. Notez-les, si vous avez le courage, on vous attend le mardi 24 avril pour reprendre ce qu'on avait dit ce matin et pour continuer un petit peu les questions que je vous ai posées, qu'on a posées ici. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la prière avant de finir ce moment? Seigneur, notre Dieu et notre Père, merci infiniment de ta parole que tu nous as donnée parce que on sait, Seigneur, qu'elle est riche, elle est riche, elle est riche. Seigneur, si on veut se rappeler d'une chose ce matin, nous voulons te dire de nous donner toujours cette phrase de Asaph qui dit « Mon corps et mon cœur peuvent se consumer. Dieu, tu seras toujours mon appui et mon rocher. » Amen. Est-ce qu'on peut chanter un cantique? Je l'introduis ou tu le fais? Je peux? Oui. Lequel j'ai dit? Compte les bienfaits de Dieu, c'est ça? Oui. Compte les bienfaits de Dieu.
Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-le tous devant tes yeux. Chancelé sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Tu perds dans le voyage, une d'achérie ton trésor. Pense au divin héritage, il a un te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant. Sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand.
On arrive à la fin de notre...